C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Des millions. Des millions, vous êtes charmant, mais.
The name's Bond. James Bond.
Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau thème ciné spécial Noël. Je suis toujours en compagnie de Melvin. Bonjour Melvin.
Bonjour à tous.
Et de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Et oui, cette fois-ci, enfin, nous sommes en décembre, et décembre, c'est Noël, cette magnifique période de l'année où on offre des œufs en chocolat à son amoureuse en s'embrassant sous le sapin. Et Noël, ça rime aussi évidemment avec cinéma, car on a tous connu ça, des films qui nous rappellent Noël, cette nostalgie de l'enfance, ou pas d'ailleurs. Donc, je commence directement avec cette première question toujours habituelle. Pour vous les gars, qu'est-ce que c'est un film de Noël pour vous ?
Bah déjà, un film qui se passe à Noël, je pense que c'est la base. en période de Noël du moins. Et c'est assez dur à caractériser en fait, parce que tu peux faire un film de Noël qui se passe à Noël, mais sans histoire de Noël. Et pour moi, voilà, c'est tout ce qui résume un film de Noël, la période.
Juste la période ?
Principalement.
Ok. Pour toi ?
Moi, on va dire que pour moi, ça va être un film qui parle obligatoirement de Noël et où va y avoir des, on va dire, des caractéristiques typiques de Noël. Je sais pas, des sapins avec des guirlandes, des cadeaux, de la neige, etc. Mais pour moi, faut vraiment que ça parle quand même de Noël ou de la fête de Noël en général, parce que si ça se passe juste à la période de Noël, pour moi, c'est juste un film qui se passe en décembre, quoi. Du coup, pour moi, faut vraiment que ça. Enfin, on n'est pas obligé de faire tout le film dessus, mais il faut quand même que ça parle de la fête de Noël et que ça soit quand même un des sujets principaux.
Faudra retenir ça, les films de décembre, tu sais.
Non, mais voilà, parce que si on prend certains films, là, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais il y a forcément des films où l'intrigue se passe pendant la période de Noël, mais ça a rien à voir, ça parle pas du tout de Noël. Du coup, pour moi, c'est pas ça un film de Noël.
Bah alors. Je comprends vos trucs, hein, évidemment. Un film de Noël qui parle de Noël, c'est mieux. Mais pas forcément, tu vois. Tu dis qu'il fallait que ça se passe obligatoirement durant la période de Noël. Pour moi aussi, un bon film de Noël, c'est pour être juste un conte, tout simplement. Tu sais, les contes qui se lisent auprès du feu, quoi que ce soit. C'est, pour moi, ça marche aussi.
Oui, mais.
Qui se passe pendant la période de Noël. Bah, déjà, il y en a qui commencent à décorer dès la mi-novembre. Je pense qu'à partir de décembre, tous les films qui peuvent se passer un peu en décembre, il y a toujours cette ambiance de Noël. Du coup, pour moi, ça compte aussi.
Mais il faut qu'il y ait l'ambiance alors. Parce que si tu prends Un jour sans fin, qui se passe en février, c'est pas un film de Noël. Pourtant, il y a de la neige, une ambiance un peu romantique et tout.
Oh, moi, ça compte.
Pour moi, c'est pas un film de Noël. Parce qu'il n'y a aucune allusion à Noël, c'est en février, juste de la neige, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut surtout retenir qu'il y ait, ou même au moins des chansons, des trucs comme ça. Pour moi, un film de Noël, ça se reconnaît de suite par les caractéristiques qu'il peut avoir, quoi. Donc, c'est pas obligé qu'il y ait forcément tous les éléments réunis au même endroit, mais dès qu'on voit un peu de musique de Noël, des sapins, des guirlandes, tout ça, moi, à partir de ce moment-là, je considère ça comme un film de Noël. Mais c'est vrai que bon, s'il y a de la neige et des musiques un peu de Noël en février ou en mars, c'est sûr que pour moi, c'est pas un film de Noël, quoi.
Et c'est quoi du coup vos références quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, vous aviez ces films de Noël ?
Il y a le film de Noël par excellence, le Pôle Express.
Oh là là.
Ah si, c'est mon enfance, j'ai mangé ce film énormément de fois.
Avec le Pôle Express, par pitié.
Non, le Pôle Express c'est incroyable. Et ça va avec le Drôle de Noël de Scrooge aussi du coup, qui est dans la même trilogie. Mais non, le Pôle Express c'est le film de Noël par excellence pour moi.
Et toi,
à tout jamais.
Moi j'ai mis le Grinch dans mes références, celui avec Jim Carrey. Alors j'ai pas vu le film d'animation.
Ah, moi je l'ai vu.
C'est bien.
Mais j'ai pas vu celui avec Jim Carrey. Donc la comparaison va être compliquée. Mais oui, c'est pas mal. Mais disons que c'est le studio Illumination de mémoire. Et du coup, l'animation est très belle. Après, ça reste un film pour enfants, quoi. Ça a ce côté, ça a vraiment un côté film de Noël pour le coup. Genre le Grinch il est méchant, mais en vrai il est gentil.
Ouais, après, c'est un peu pareil avec le film de Jim Carrey.
Mais je pense que t'as pas la patte carrée, quoi, c'est ça que je veux dire.
Ouais,
c'est cette différence-là, que ça peut pas forcément être le même personnage de ce côté-là.
Après, je me souviens d'avoir vu quand j'étais petit, le Grinch, il y a un côté assez flippant, quand même. Parce que rien que le déguisement et tout, même avec les attitudes de Jim Carrey, il y a vraiment des trucs assez flippants dans le Grinch quand tu prends un peu de recul. Et après, quand tu grandis, évidemment, bon, c'est juste méchant qui devient gentil à la fin. Mais ouais, moi j'ai mis le Grinch. Après, j'ai mis Maman, j'ai raté l'avion, mais on peut quand même considérer ça comme un film de Noël.
Je voulais juste revenir par rapport au Grinch, parce que je ne l'ai pas vu non plus. Mais je me dis que l'animation, du coup, permet énormément plus de choses en termes de gestuelle et de comédie. Mais en même temps, Jim Carrey, c'est un personnage de dessin animé dans la vraie vie. Donc,
ça compense.
Je pense que ça fait moins peur, entre guillemets, le film d'animation. Et des images que j'ai vues du Grinch avec Jim Carrey, c'est beaucoup plus coloré dans le film d'animation. Mm-hmm. Genre le vert du Grinch, il est vraiment pétant.
Ouais.
Ça a plus ce côté... pas enfantin mais Noël fête quoi.
Ouais, et puis le fait que ce soit un film d'animation aussi ça appuie vraiment le truc quoi. Parce que après je l'ai pas revu depuis longtemps le Grinch avec Jim Carrey, mais je me souviens quand même qu'il y a des scènes assez sombres où à part la neige vraiment il y a quand il est dans son espèce de grotte où je sais plus exactement ce que c'est, mais il y a vraiment des trucs flippants quoi. Il y a vraiment des scènes entières de 10 minutes où t'as un monologue de Jim Carrey déguisé en Grinch et dans une grotte assez sombre et tout, donc ça fait un peu flipper, mais voilà, j'ai mis ça. Maman, j'ai raté l'avion aussi,
bien sûr, classique.
Oui, voilà. Et après, Le Père Noël est une ordure et...
bien évidemment.
Alors, Le Père Noël est une ordure. À part la période,
ouais,
et le fait qu'il y en ait un déguisé en Père Noël, il n'y a rien d'autre.
Oui.
Ah oui, mais c'est un film de Noël.
Bah oui, non, mais je suis d'accord, c'est un bon film de Noël. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des sapins, des guirlandes et tout, forcément, pour faire un film de Noël.
Alors, moi, ouais, j'ai vraiment. Je suis une anomalie, déjà. C'est que je n'ai pas de film de Noël. Tous ces films de Noël dont vous parlez. Je les ai pas vus quand j'étais petit, tout ça, je les ai vus vraiment sur le tard. Les mamans, j'ai raté l'avion, les Gremlins.
Que le 1. Le 2, c'est pas Noël.
Non, oui, j'aurais dit Gremlins 2 sinon. Mais il y a les Gremlins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, oui, le Pôle Express, je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas grandi avec les films de Noël, mais j'ai plus grandi avec les dessins animés Looney Tunes.
Ouais.
Parce que moi, c'est évidemment très familial. Et quand t'es petit, tu es ingrat, du coup, la famille, mais c'est, oh là là, c'est chiant, il y a que des vieux, ça parle dans tous les sens, tu sais pas, et tu comprends rien à ce qu'ils disent. Du coup, tu te dis, est-ce que je peux aller devant la télé? Et devant la télé, moi, il y avait les Looney Tunes avec plein de gags sur la période de Noël. Donc, on n'a pas la même enfance.
Non, mais après, oui, ça s'est décliné sur beaucoup de dessins animés, aussi le thème de Noël, évidemment, parce qu'on cherche principalement à toucher les enfants, quand même. Et du coup, ça s'est décliné sous plein de dessins animés et sous plein de séries dérivées. Même, je crois que de ce que j'ai vu, alors du coup, vu que j'y connais pas grand chose en film de Noël, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que les studios DreamWorks avaient fait pas mal de déclinaisons de Noël sur leur dessin animé principal. J'ai vu qu'ils avaient fait un mini court-métrage avec Shrek, je crois.
Oui, bien sûr.
Et que ça s'était fait aussi avec Madagascar. Alors ça, je savais pas du tout. C'est des trucs que j'ai jamais vus, mais
bon, ça c'est ouais. C'était généralement le matin que des fois ils passaient dans les grandes émissions style Bunny Tonic. Ils passaient des courts métrages spécial Noël, de trucs comme ça.
Ouais, mais ça dure genre 25 minutes, mais c'est.
Mais après, t'avais le réveillon. T'es toujours sur la une ou la 6. T'es toujours le Mickey et ses amis qui fêtent Noël. T'avais plein de trucs, comme je rappelle de Scrooge avec Picsou. J'ai vu tous les ans, je crois, qu'ils passaient, donc c'est plein de trucs comme ça, et c'est vrai que ça fait grosse partie de l'enfance, quoi.
Ouais. Et du coup, tu parlais de cette ambiance, mais vous avez entendu parler du film Douce Nuit, Sanglante Nuit? Parce que là, ça réunit les thèmes, ça passe, il y a Noël qui est cité, il y a littéralement un Père Noël qui bute des gens, c'est en décembre, il y a les cadeaux, c'est complètement ambiance Noël, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va empaler des gens sur des cornes de cerf. Donc, et c'est un film de Noël ou pas?
Mais oui, c'est un film de Noël. Tu
un film d'horreur de Noël.
Mais il y a plein de films d'horreur de Noël. T'as Krampus qui existe, t'as Violent Night qui est sorti au ciné, c'est la même chose. Un Père Noël alcoolique qui est à base des méchants.
Il y a Black Christmas aussi, je crois.
Ouais, aussi des films de Noël d'horreur. Il y a quand même, ça fait un gros paquet. Mais il y a le Grinch aussi qui va sortir prochainement. Ouais, en film d'horreur.
Il y avait un film, j'en avais entendu parler, c'était un film français qui est complètement obscur, où c'est un Maman, j'ai raté l'avion, mais où c'est un clochard super violent qui se déguise en Père Noël pour essayer de cambrioler tout le monde. Et non, ça vous dit rien?
Non, j'ai pas
entendu parler de ça. Et c'est ultra violent, il se fait tabasser par le gosse, enfin c'est bien français, bien de chez nous.
Mais ça m'étonne même pas que ça existe.
Mais plus récemment, il y a eu le film avec Mel Gibson aussi, non? Il y a eu un film récemment.
Oui, il est sur Prime.
C'est pas Fat Man ou un
si, c'est ça, avec Walton Goggins.
Ouais, c'est un mec déguisé en Père Noël qui en a juste ras la casquette de ce qui se passe. Et je crois qu'il me semble qu'il tabasse un peu tout le monde. Enfin,
mais il est. Non, c'est. L'histoire, c'est un petit qui engage un tueur à gages pour tuer le Père Noël. C'est ça, de base. Enfin, je l'ai pas vu, mais je le pitch, ça m'intriguait.
Et ouais, après, c'est vrai que du coup, ça s'est décliné sous plein de genres. On a vu des comédies, on a vu des films d'aventure en rapport avec Noël aussi. Il y a eu des comédies romantiques. Il y a vraiment eu plein de choses. Là, on a parlé de trois slashers aussi. Après, du coup, pour revenir sur le côté un peu historique, j'ai fait des recherches et du coup, j'ai vu que le premier film de Noël est sorti en 1906.
Ouais.
Alors, c'est le Noël de Monsieur le Curé.
C'est ça.
De ce que j'ai vu. Ouais, parce que du coup, j'ai dû faire pas mal de recherches. Sinon, honnêtement, j'aurais pas su de quoi parler.
Et c'est très épars, hein. Les films à thématique Noël, ça a vraiment commencé à décoller dans les années 40.
Ouais, ouais, ouais.
Le Noël de Monsieur le Curé, c'est pas le Noël comme on connaît, c'est juste la période de Noël et puis il y a des anges qui arrivent pour donner un petit Jésus à la crèche qui a plus de thunes, tu vois ouais, c'est vraiment c'est 1906, hein, c'est pas de parole encore, hein, c'est
non mais ouais, mais c'est vrai qu'après ça date quand même beaucoup. Après, c'est sûr que c'est une fête fêtée depuis très très longtemps et qui est très connue, donc forcément quand le cinéma était arrivé, il y a eu forcément des déclinaisons et des films qui se sont fait d'entrée, quoi.
Ça, mais
c'est un côté film populaire aussi. C'est, en général, c'est des films accessibles à tous, que tout le monde peut voir en famille, ce côté familial. Oui. On sent le film de Noël est ultra accessible de par sa thématique de base.
Mis à part les quelques exceptions qu'on a citées, voilà. il y a très peu de films de Noël qu'on ne peut pas voir tous ensemble. Quoi.
C'est... Ouais. Est-ce que les films d'horreur de Noël, est-ce que c'est si vieux que ça?
Ça a explosé avec les slashers en même temps. Hein.
Oui, voilà, donc c'est pas si vieux que ça. Donc
80.
Ça,
hein.
Voilà.
Non, il a fallu un petit moment de poncer le genre du slasher avant, je pense, de se tourner vers le slasher de Noël. Mais oui, c'est vrai qu'après, quand on prend les caractéristiques de base d'un film de Noël, c'est le film typique à regarder en décembre, en famille, au coin du feu. C'est l'idée de base, quoi.
Il me vient là un autre film que j'ai vu qui est extrêmement beau. Et Noël, c'est pas la thématique principale durant trois quarts du film, mais à la fin, ça devient un film de Noël. Ça s'appelle La vie est belle du réalisateur Frank Capra, pas celui qui se passe en Italie. Ça vous dit quelque chose?
J'ai vu en faisant mes recherches, mais je connaissais pas avant.
Voilà, parce qu'en fait, durant tout le film, on va suivre pas un entrepreneur, mais un gars qui veut aider sa communauté à s'installer dans un coin des États-Unis, fonde une ville, etc. Et tout se passe bien, il est aimé de tout le monde. Il marche sur les entrepreneurs et les banquiers véreux durant trois quarts du film. Et à la fin, ça se passe ça se passe à Noël. En fait, il se rend compte qu'il y a un moment, il a plus de thunes pour un truc super important. Et il se déteste pour ça. Et du coup, il fait un vœu à la bonne étoile en mode oh, je souhaiterais ne jamais avoir existé. Et donc, il y a ce trope où, justement, il voit qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas là. Et il voit que c'est absolument la merde. Et du coup, il regrette et revient dans le monde réel. Et tout le monde lui donne de l'argent. C'est beau. Tout le monde fête Noël tous ensemble. Mais Noël, c'est pas la thématique durant, le trois quarts du film. Ça se passe en été, au printemps, on voit les récoltes, les magasins, tout ça, mais c'est qu'à la fin. Ouais, du coup, ça compte ou pas?
Ça peut être un sous-thème de pas mal de films. Après, c'est sûr que bon, il suffit que on suive le déroulé d'un film pendant une année entière. À un moment donné, on va forcément parler de Noël. Du coup, après, je sais pas si on peut caractériser ça comme un film de Noël, mais ça reste quand même un sous-genre ou un sous-thème, comme vous voulez, de pas mal de films.
Alors, juste pour info, j'ai cherché Black Christmas, film d'horreur de Noël, 1974. Donc c'est quand même assez vieux.
Ouais, c'est...
Ouais, mais enfin, c'est cette époque-là, hein.
Ouais, mais ça sort même en même temps que les tout premiers slashers, mais c'est pas non plus... Il me semble que le...
Massacre à la tronçonneuse, c'est la même période.
C'est 71, je crois.
Il me semble que c'est américain, oui.
Il me semble que Massacre à la tronçonneuse, c'est 71, 72, du coup ça sort quand même assez tôt.
Ouais,
par rapport au début du slasher, mais bon. Je pensais que ça...
C'est canadien.
Je pensais que ça avait
C'est normal.
Ouais, non, je pensais que ça avait quand même bien poncé le genre du slasher avant de penser à faire des trucs comme ça, mais apparemment, non.
Bon. Après, je me dis, c'est quand même assez... C'est tu te dis, oui, c'est quand même assez classique, tu vas prendre une figure enfantine pour faire un truc absolument abominable, comme les poupées ou les trucs comme ça, donc le Père Noël, il est passé très vite aussi. Hein.
Oui, oui, après, c'est sûr que c'est un cheminement qui se fait très vite, quoi, donc c'est vrai que c'est pas si surprenant que ça a été fait de sitôt, quoi.
Et pour info, c'est le premier à tourner en québécois, en doublage québécois, tout premier film.
Ah, ok.
Voilà, pour la petite anecdote.
Très bien, donc... film d'horreur de Noël, doublage québécois, pas de soucis. Bon, bah, il me semble qu'on a fait le tour.
Ouais,
ça,
ouais.
Je vous propose une petite pause musicale. Donc, je vous laisse en compagnie de Slade avec son tube Merry Christmas Everybody. Après cette excellente pause musicale, donc nous arrivons dans le passage où donc nous allons vous présenter trois films que l'on juge de Noël. Nous allons débattre, en voir ce que chacun en pense, juger est-ce que ce sont des films de Noël, bien sûr. Et cette fois-ci, pour une fois, en cette fin d'année, ce n'est pas moi qui vais commencer, car pour une fois, ce n'est pas moi qui ai le film le plus vieux. Je laisse la parole à Lucas. Alors Lucas, de quoi vas-tu nous parler ?
Oui, alors pour une fois, c'est moi qui ai choisi le film le plus vieux, ce qui est assez surprenant, mais on va profiter de cette occasion qui risque pas de se représenter très souvent, je pense.
Ils m'ont piqué mon travail.
Mais du coup, je vais vous parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc qui est un film assez connu, qui est sorti en 1993 et qui est réalisé par Henry Selick et qui a été écrit dans son entièreté ou alors coécrit par Tim Burton. Donc Henry Selick, à qui on doit Coraline et James et la pêche géante. Alors après, bon, c'est des films que j'ai pas vus, mais c'est notable. Donc pour le pitch du film, donc c'est Jack qui est le roi des citrouilles de la ville d'Halloween, de la ville d'Halloween. Un jour, il découvre la ville de Noël et il décide de célébrer lui-même cette fête qui connaît pas du tout lui. Donc il décide de kidnapper le Père Noël et de le remplacer par ses amis, qui au contraire du Père Noël sont complètement terrifiants, et il décide de faire la tournée des cadeaux de Noël lui-même. Voilà, c'est à peu près tout pour le...
Avec tous les problèmes que ça peut poser, bien sûr.
Voilà, c'est à peu près tout pour le pitch du film. Donc on a Chris Sarandon qui joue le rôle de Jack, enfin qui double Jack il me semble en VO. Donc Chris Sarandon qui a joué dans Chucky ou qui a doublé Chucky, je sais pas, mais c'était noté. Il y a Catherine O'Hara qui joue le rôle de Sally, donc du second personnage principal du film, qu'on retrouve dans Beetlejuice, Frankenweenie et Maman j'ai raté l'avion. Et point non négligeable, le compositeur est Danny Elfman, comme sur tous les films de Tim Burton il me semble.
Et qui chante aussi.
Quasiment.
C'est la voix de Jack quand il chante.
D'accord, ok.
Pas tous, parce que je sais qu'à un moment ils se sont embrouillés pendant plusieurs années, mais ils se sont réconciliés pour Mars Attack.
D'accord, ok. Parce qu'il me semble que je l'ai vu en français, mais du coup je m'en souviens. Ouais, il me semble que je l'ai vu en français.
Non, en VO, c'est lui qui chante, ouais.
D'accord, ok. Donc c'est à peu près tout pour le pitch et les acteurs du film. Donc je vais vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de L'étrange Noël de Monsieur Jack ?
C'est un film que j'ai découvert assez récemment, sauf faire l'année dernière, un truc comme ça. Parce que bon, vous rattrapez la fibre de Burton, c'est pas Burton, mais bon, ça fait quand même partie de son histoire. Et non, j'ai beaucoup aimé, mais sans non plus être transcendé. Mais je pense que c'est dû au fait que tout le monde dit que c'est incroyable, je suis parti d'un avis que ça va être incroyable, et du coup j'étais là, ouais c'est sympa. Mais non, en soi, déjà l'animation est magnifique, moi le stop motion, moi ça m'a à chaque fois. Sauf si c'est vraiment raté, mais c'est rarement le cas. Et l'histoire est à un côté quand même très original pour un film de Noël. Parce que qu'on part d'Halloween pour aller vers Noël, c'est pas tous les jours. Il n'y a que les magasins qui font ça.
Et encore.
C'est Noël avant Halloween parfois. Et non, les personnages sont... La plupart des personnages sont attachants. Et le méchant fait quand même assez peur. Oogie Boogie, ou je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est quand même assez terrifiant. En plus, doublé par Richard Darbois, c'est encore mieux.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Et pour rester sur Danny Elfman, les chansons sont quand même super. Je veux dire, la musique est folle et genre, ça, que vois-je, pour moi c'est la préférée. Mais non, elles sont vraiment... Je n'ai pas été non plus transcendé à mort par le film, mais oui, c'est quand même, ça reste excellent. Mais c'est juste pas un film que je verrai toutes les semaines. Quoi.
Et tu l'as vu en VF ou en VO ?
En VF, évidemment. En VF. Richard Darbois. À aucun moment, j'hésite.
Oui, mais voilà, tu disais que tu avais beaucoup aimé les musiques de Elfman et les chansons de Elfman, mais comme c'était en VF, c'était...
Ah oui, mais après, c'est lui qui les compose, mais oui, dans sa voix. Après, je les ai écoutés en VO quand même.
Ok, ok. Ben moi aussi, donc c'est un film que je n'avais jamais vu dans ma vie, voilà, donc du coup c'était la première fois que je le voyais. Et effectivement, excellent, hein, l'animation stop motion, je n'ai vraiment pas l'habitude de ça, et c'était trop bien, c'est trop bien la pâte à modeler en fait. Les musiques sont, et tu l'as dit aussi, excellentes, mais moi je préfère la chanson de Boogie Woogie.
Ça allait pas mal aussi.
Oui, ben, Richard Darbois qui chante.
Voilà.
Ouais. Richard Darbois qui chante. Et on m'avait dit que c'était bien, mais voilà, on m'avait pas dit que c'était excellent, du coup je ne m'attendais pas à grand chose non plus. Mais franchement, ouais, c'est très bon film pour enfants, mais du coup, en me renseignant un peu sur ce film, il y avait ce débat qui existait: est-ce que c'était un film de Noël ou d'Halloween?
C'est vrai que ça peut être associé aux deux au final. Mais c'est ça qui est quand même intéressant.
À Noël.
Mais voilà, parce que t'as quand même des trucs qui sont... bon, je pense quand t'es une petite flippette comme moi, quand t'es enfant, ça fait peur, tu vois.
Ouais. Il y a des trucs qui font quand même assez flipper, même avec du recul.
Le gars qui s'ouvre le cerveau et qui se le gratte après pour ensuite le découper pour faire une autre poupée, ouais. T'es là, ok.
Mais après, c'est du Henry Selick, parce que Coraline, c'est pareil, c'est assez flippant quand même.
J'ai pas vu.
Ouais, je vous le dis, c'est quand tu vois ça, tu fais ah oui, ok, c'est pour enfants, ah d'accord.
Ouais, non mais
avec ce coup des boutons sur les yeux, ok.
Ouais, non mais c'est les mieux, c'est je vois pas ce que je peux rajouter d'autre en fait. T'as quasiment tout dit, mais c'est effectivement c'est un joli conte. Les personnages ils sont attachants. Tout ce monde d'Halloween où c'est tous des petites pestes ou des trucs comme ça, c'est trop bien. Où ils ont une notion du bonheur, de la joie qui est complètement différente. C'est un peu comme dans la dimension des gens Pinhead dans Rick et Morty. Mm-hmm. Pour eux, avoir mal, c'est le bonheur absolu. Ouais. Voilà, c'est pareil.
Mais il faut dire aussi, c'est écrit par Burton et ça reste un habitué de Noël quand même, parce qu'il a fait Deux Romains d'Argent avant, qui est un film de Noël. Mm. Donc il s'y connaissait un peu sur le scénar. Enfin, c'est ces deux. Pas passion, mais genre Halloween et Noël, ça reste des sujets qu'il maîtrise.
Bon, ça, je le savais pas avant, mais comme je l'avais vu, avant m'être renseigné, c'est la première fois, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que ça chante dans ce film ? Ça chante tout le temps. À un moment, j'avoue, j'en avais un peu marre. Mais avec leur queue, je me suis dit, oui, effectivement, ils ont voulu faire ça comme une comédie de Broadway. Mm. Donc, effectivement, je comprends que ça puisse se faire chanter. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on apprend des choses dans les chansons. C'est pas des trucs qui sont répétés.
Ouais, c'est pas pour combler du vide ou oui, voilà. Juste faire... Ouais.
C'est pas Jack qui dit « Oh là là, je suis dépressif » et après « Je suis dépressif ». Non, ouais. Non, c'est, il chante direct « Je suis dépressif ouais. ». Donc au moins, tu apprends en même temps qu'il chante.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Du coup, il y a une utilité dans les chansons. Mm. C'est pour ça que... Bon, ça va faire des bas, mais c'est pour ça que les chansons Disney, bah, j'accroche pas trop parce que généralement, c'est... On répète ce qui est dit avant. Quoi.
Ouais, les libérés, délivrés, écoute, hein, fallait savoir. Hein. Ouais, c'est ouais. Comme ça. Hein.
Ouais, on n'avait pas compris. Mais donc voilà, effectivement, unanime. Hein, je pense que tout le monde le recommande.
Ouais, alors ouais, du coup, moi j'ai quand même choisi ce film pour me réconcilier avec Tim Burton de base, parce qu'il fait appel à un univers que j'aime pas du tout de base, voire vraiment pas, enfin vraiment détesté de base. Et du coup, je me suis dit, bon, Lucas, quand même, tu vas pas bouder Tim Burton pendant toute ta vie. Déjà que j'ai eu un peu du mal avec les premiers Batman, sur toi et Batman le défi, qui...
Mais c'est le meilleur.
Qu'il a enfin... De tous.
Non, mais attends, non, c'est le meilleur Batman de Burton.
Oui, bah après, il en a fait que deux.
Et il est dans le haut de tous.
Il en a fait que deux, mais... Bon, c'est un univers qui me plaît pas. Après, il a eu le mérite de faire le duo avec Danny Elfman qui a quand même pondu un thème de Batman assez fort. Mais du coup, bon, j'ai découvert Beetlejuice il y a à peu près 6 mois. Edouard Romain d'Argent, je l'ai vu il y a très longtemps, donc honnêtement, j'ai quasi aucun souvenir. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on se prend par la main, on essaie de découvrir l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ben, c'est super. En vrai, j'ai toujours un peu de mal avec l'univers de Tim Burton parce que c'est pas un univers qui me parle forcément. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à accrocher, je sais pas. Après, c'est censé faire partie de l'univers, mais j'ai une sorte de répulsion, je sais pas, ça me...
T'aimes pas cet univers un peu gore, un peu bizarre, un peu...
Ouais, même l'univers dessiné comme ça, avec...
Très fin,
ouais,
athlétique,
toutes les formes glauque, hein. Disproportionnées et tout, ça me perturbe. Mais du coup, je me suis forcé un peu à le regarder, j'ai été poussé un peu à le regarder par une tierce personne. Et du coup,
ce n'est pas nous.
Et du coup, je me suis dit bon, allez, on peut pas rester comme ça. Donc c'est bien. Moi, j'aime beaucoup la musique qui est pour beaucoup aussi. Après, comme t'as dit Malvin, le fait de partir sur un film d'Halloween de base et de dériver sur un film de Noël avec le concept des différents mondes et des différentes fêtes qu'on a à un moment donné au premier tiers du film. Et c'est quand même vachement intéressant. Après voilà alors au début il faut préciser qu'au début j'ai commencé à le regarder en anglais mais faire en VO et du coup au final je l'ai basculé en VF parce que je me suis dit que sur ce genre d'œuvre enfin les doubleurs sont quand même assez forts même pour les musiques et tout je me suis dit, bon allez on le bascule en VF et au final en VF c'est vraiment super aussi
surtout là en fait la VF c'est aussi la majorité des gens qui le voient comme ça il y a enfin c'est
oui. Et du coup, je l'ai basculé en VF et c'est vraiment super en VF aussi. J'aime beaucoup le personnage de Jack. Bon, après, c'est sûr que c'est le personnage principal, du coup, voilà. Mais on part quand même quelqu'un qui, de base, est très triste à quelqu'un qui, au final, pense un peu qu'à sa gueule vers la fin.
Oui, c'est ça. C'est...
Et qui se rend compte, au final, bon, que c'est, bon, voilà, que c'est pas terrible ce qu'il a fait, etc., etc. Mais on part que, ouais, quand même quelqu'un qui est assez triste de fêter la fête d'Halloween tous les ans et d'organiser, d'essayer de faire peur, etc., à 10 pélèques du village. Et ouais, on passe de quelqu'un qui est vraiment très triste à quelqu'un qui, au final, pense qu'à lui et veut fêter son truc à lui comme il l'entend. Et ça fait une bascule qui est quand même intéressante. Voilà, après, bon...
C'est quand même la fin qui me fait un peu marrer, où donc il terrorise absolument tout le monde et il se fait bombarder, chasser ouais. par l'armée, c'est parti dans tous les sens.
Ouais, ouais.
C'est quand même un peu marrant. Mais ce que tu disais sur la fin, où il fait, bon, en fait, pour moi, il pense qu'à sa gueule, bah, qu'au moment où il découvre du coup le monde d'Halloween, et à la fin, il avait l'air de regretter. Je dis, mais comment ça, tu regrettes d'un coup comme ça, il n'y a pas de transition, c'est bizarre. Et en fait, il regrette pas du tout, vu qu'il s'est amusé comme un dingue.
Donc, ouais, ouais, non, mais, ouais. Non, mais oui, après, ça reste un développement de personnage intéressant, et c'est un film, pour ceux que ça intéresse, qui n'est pas très long, qui dure 1h15, ouais. Mais qui est efficace, qui ne traîne pas en longueur. Ça se finit bien, et c'est... Franchement, c'est agréable pour ceux qui aiment Tim Burton. Ben,
bon, la romance va assez vite. Hein. C'est pas oui, très développé,
c'est,
mais
c'est
bon.
Vite expédié, mais c'est volontaire, je pense. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment Tim Burton, ça fait partie de son univers et bon, c'est très bien.
Ça fait partie des classiques, quoi. Donc, si vous voulez découvrir voilà. Tim Burton, ça fait partie des films par lesquels commencer.
Et c'est très comparable aux Noces funèbres de Tim Burton, du
pas
coup.
Vu.
Ben, c'est en stop motion. En fait, c'est L'étrange de Monsieur Jack. Mais avec des humains et un monde des morts et sans Noël. Mais sinon, c'est la même chose. Il y a des chansons, Danny Elfman, c'est vraiment tout pareil.
Bah,
1h20. Non, c'est pas la même histoire. Là, c'est vraiment Noces funèbres, c'est Victor, il s'appelle, qui doit se marier avec quelqu'un qui veut pas, il meurt, et surtout dans le monde des morts, et oh, il tombe amoureux de quelqu'un dans le monde des morts. Et du coup, ça jongle entre les deux, et c'est pas mal du tout. Enfin, okay. c'est vraiment le même style, quoi.
Ok. Bon, du coup, à moi.
Oui.
Bah, moi, du coup, je vais vous parler d'un film DreamWorks sous-estimé sorti en 2012 qui s'appelle Les 5 légendes. Alors, pour vous résumer le film sans aller trop loin, on va suivre Jack Frost, qui est donc l'esprit de l'hiver et du givre. Et il va se faire appeler par les 4 légendes, à savoir le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable. Pour combattre le méchant Croque-Mitaine qui fait son retour sur Terre en se nourrissant des cauchemars des enfants et qui veut faire disparaître ces 4 légendes pour se nourrir de tout le malheur des enfants et de l'humanité en général. Voilà. Et Jack Frost va devoir les aider pour récupérer ses souvenirs. Voilà. C'est concis, mais il me semble que c'est bien résumé.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc, on retrouve à la réalisation un certain Peter Ramsey, qui bon, a un palmarès pas si grand que ça, vu qu'il a fait un monstre contre alien spécial Halloween.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Il a réalisé Les 5 légendes, et je sais pas si vous connaissez Spider-Man New Generation.
Mmh. Ce petit film.
Voilà, qui s'appelle, ou autrement Spider-Man Into the Spider-Verse. Bon, c'est. Ouais, qui a genre légèrement révolutionné le style de dessin animé de super-héros.
Ouais, qui est même considéré comme le meilleur film Spider-Man par certains, même devant Spider-Man 2. Donc,
voilà, donc c'est franchement, ça va.
Ouais, c'est fort.
Voilà, en trois films, mais franchement pas dégueulasse. au scénario, on retrouve William Joyce. Qui est surtout connu pour Robot, si ça vous dit un truc.
Robot, oui, incroyable.
C'est incroyable.
Incroyable.
C'est incroyable. C'est DreamWorks aussi, non ?
Oui, c'est DreamWorks. Ouais, ouais. Et aussi pour Bienvenue chez les Robinson.
Ah, ça, c'est Disney, par contre.
Okay. Et bah oui, écoute, faut bien manger. Hein.
C'est un film. Ça, c'est deux films de pure enfance.
En termes d'acteurs, du coup, là, je me suis concentré sur le casting VF. Donc, pour Jack Frost, on retrouve Gaspard Ulliel, qui lui est un acteur. C'est pas un comédien de doublage. Donc, il a commencé sa carrière dans le Pacte des Loups de Christophe Gans. Bon, c'est quand même pas mal.
Ouais.
Bon, il a un petit rôle, hein, mais quand même, ça fait bien sur le CV. C'est lui qui joue Hannibal dans Hannibal Lecter, Les Origines du Mal.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc Jack Frost, c'est Animal Lecteur. Hein. Faut se dire
Le raccourci est violent, mais...
voilà. Il joue Yves Saint-Laurent dans le film du même nom. Mm. Et c'est son seul doublage dans sa carrière. Après, il a
Surtout comme il est décédé maintenant.
Oui, ouais. Il est décédé en 2022.
Bah oui, voilà.
Nos hommages, hein, bien sûr. Ouais. Donc c'est son seul doublage dans toute sa carrière. Au Père Noël, on retrouve Miglaine Mitchou, qui est un acteur de théâtre, qui lui a doublé Béorn dans Le Hobbit, si ça vous dit quelque chose.
Pas vu Le Hobbit.
Rhino dans The Amazing Spider-Man. Oh,
ce rôle de fou.
Voilà. Oleg dans Green Book.
Oui.
Voilà. Vitaly dans Madagascar 3.
C'est qui Vitaly dans Madagascar?
Mais je sais pas, mais ça se passe en Italie à un moment, donc ça doit être un animal.
Le 2, c'est là où il retourne en Afrique, c'est ça?
Oui, et le 3, c'est le cirque.
Je m'en souviens pas.
Et il joue le patron dans Tous en scène. Voilà, c'est pas...
D'accord.
Donc, petit doublage, hein, c'est pas non plus le plus connu de tous.
Ouais, ouais, il double des sacrés noms, par contre. Hein.
Mais le reste, par contre, ouais, le Lapin de Pâques, c'est Jérémy Covillo qui le double. Donc, c'est simple, vous le connaissez. Si vous avez vu un film avec Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman et Joel Egerton, voilà, c'est simplement leur doubleur officiel. Et je l'ai rencontré récemment, j'ai un petit autographe sur mon frigo. Voilà, il est très gentil.
Mais c'est quand même. C'est curieux quand même, parce que ça double Hugh Jackman et Benedict Cumberbatch.
Oui.
Mais c'est impressionnant parce que. Enfin, si j'ai souvenir, quand même, il y a des similarités, mais c'est pas non plus incroyable. Il doit quand même modifier sa voix.
Oui, oui, mais...
Assez fort, ouais. Ok.
Après, Hugh Jackman, il a doublé dans Logan. Hein. Faut attention, c'est pas...
Ouais, mais c'est le plus difficile, je pense, à doubler Logan, en vrai. Et du coup, c'est pour ça, j'étais en train de m'imaginer la voix de Logan. Et même Benedict Cumberbatch dans un film comme Imitation Game ou un truc comme ça, je vois pas le... Faudrait mettre les deux à côté, mais c'est quand même assez fort, ouais.
Je l'avais rencontré, il disait qu'à la fin du doublage de Logan, il avait un peu pleuré.
Ah ouais.
C'est tellement il s'était fort. Mais donc voilà. Et à la Fée des Dents, on retrouve Nolwenn Leroy pour son seul doublage.
Allez hop, bonjour.
Ouais, c'est notre célèbre chanteuse bretonne Trimatolo Yo-ho Tralala Queen Amman.
C'est le seul doublage qu'elle a fait.
C'est le seul doublage qu'elle a fait.
D'accord, ok.
Voilà, elle a eu quelques rôles au cinéma, mais tu sais, c'est des rôles
où
elle joue son propre rôle en comédien. Ou alors, non, pardon, je me trompe, elle a aussi fait Le Chant de la Mer. Si ça vous dit quelque chose.
Non,
C'est pas le truc Netflix récent, ça?
Non, il me semble pas.
Ah, ok.
Et pour le méchant Croque-Mitaine, alias Peach,
oui,
on a Boris Rehlinger, qui est le doubleur de Colin Farrell, donc dans Les Animaux Fantastiques, Daredevil et Le Pingouin dans The Batman.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi le doubleur de Jason Statham.
Oui, Jason, mon idole.
Oh, bien sûr, on l'adore. De Ben Affleck et de Joaquin Phoenix, entre autres.
Et du Chapoté.
Aussi.
Voilà.
Mais là, c'était pas obligé.
Bah, attends, mais ça reste DreamWorks, c'est dans l'univers.
Non, mais bah, surtout à la fin, parce qu'au début, bon, ça marche pas tant que ça le casting.
Mais bon, double Ben Affleck, Joaquin Phoenix, ça fait que le mec, il doit avoir du boulot à peu près tous les jours et toutes les heures de toute sa vie.
Dis-toi, le jour où il y a Venom qui va rencontrer Doctor Strange,
Il
est dans la merde.
Bonjour.
Alors, parce que ça m'a intrigué avec les Marvel, je me disais, mais comment ils vont faire pour le doublage? Et bah, sachez qu'en fait, ils font plusieurs rôles, genre Bradley Cooper et Loki. Enfin, Tom Hiddleston, c'est le même. Et du coup, quand il y a Rocket Raccoon et Loki, bah, c'est le même doubleur, genre dans Endgame. Mm. Juste deux fois la voix du mec. Ça me fait rire.
Okay. Et du coup, moi, j'ai choisi ce film parce que, bon, à la base, je devais prendre Die Hard. Mais on m'a fait... on n'a pas arrêté de me harceler pour me dire « Non, pas un film de Noël !» Et puis « Oh, c'est quoi ce film ?» etc. Du coup, j'ai creusé dans ma mémoire pour essayer de trouver un truc qui était un peu en rapport. Et je me suis souvenu des 5 légendes que j'étais allé voir au cinéma à sa sortie. Et en vrai, c'est un très bon DreamWorks. Bon, déjà, niveau animation, c'est DreamWorks, donc c'est qualité, hein, même,
clairement.
Même 10 ans après. Et surtout, c'est vraiment un mix film de Noël qui se passe à Pâques, film de super-héros, film d'aventure. C'est vraiment un très grand mix.
J'ai dit, film de Noël ou pas film de Noël?
Bah, pour moi, ça rejoint le conte. Du coup, pour moi, ça fait partie des films de Noël, même si ça se passe en période de Pâques. Et... Et c'est pour ça, on a, en fait, c'est un peu les. C'est Avengers, mais version conte pour enfants, tu vois.
C'est... Ouais, c'est vrai, en vrai.
Bah oui, attends.
Le pitch, c'est ça, au final.
Le Père Noël, le lapin de Pâques.
C'est... Moi, j'étais perturbé parce que c'est une fée des dents et pas une petite souris. Et quand je l'ai vu jeune, j'étais là.
Justement, il y a une vanne.
Non.
Il y a une vanne. À un moment, ils vont choper la dent de quelqu'un et t'as une des fées qui tabasse une souris et il dit « Ah non, non, laisse-la, c'est la filiale française !» C'est un peu marrant, petit clin d'œil à notre beau pays. Du coup, vous, les gars, je vous demande, vous en avez pensé quoi?
Bon, vas-y, je vais commencer alors. moi, je voulais mettre l'accent déjà sur les gros points positifs du film. C'est l'animation, déjà. En vrai, même... c'est quand même assez... Enfin, pas choquant, mais c'est quand même assez fou ce qu'on peut faire en termes d'animation.
Ouais, DreamWorks, ils ont toujours été...
C'est quand même assez impressionnant. C'est vachement bien fait. L'animation est folle. Même le doublage et tout, il y a vraiment aucun décalage, rien du tout. Ça choque dès les premières minutes du film ou dès qu'on voit les cinq personnages ensemble. C'est quand même...
Les animations de gel, le froid, tout ça, on voit encore vraiment propre. Hein.
Franchement, l'animation.
Le sable.
L'animation est incroyable. Alors, moi, j'ai du mal un peu à rentrer dans le film, mais globalement, après, une fois que le train est pris, ça bascule bien. L'histoire est sympa. Moi, j'ai un petit problème, c'est que pour moi, c'est un peu trop, on va dire, enfantin pour moi, le film. Après, bon, c'est le public visé, donc forcément.
Ça respecte toujours ce truc de oui, le héros est là, au début tout se passe bien, il commence à avoir un truc, tout ça, puis à un moment il y a tout qui se casse la gueule, c'est la merde, puis ensuite ça remonte avec le courage et l'héroïsme, on parlera tout à l'heure, mais en même temps c'est très classique dans les contes de Noël, tu vois.
Il y a
de l'émotion, tu vois, faut de l'émotion, faut de l'espoir, à la fin les gentils gagnent, tu vois.
Non, mais ouais, après c'est le but visé, donc ça réussit très bien son truc. J'ai bien aimé l'histoire, franchement, même la relation qu'il y a entre les personnages est assez cool. Moi j'y crois de suite, du coup c'est quand même assez sympa. Après voilà, c'est un bon petit film à voir en famille, franchement, rien que pour la beauté de l'animation. Et pour l'histoire, franchement, ça se regarde très très bien.
Et tout au long de l'année, hein.
Oui. Mais après, voilà, moi j'ai ce petit problème que, bon, même les motivations du méchant, bon, enfin.
Oui, je suis le méchant.
Ouais, ouais, non, voilà. Enfin, c'est.
Je viens de tuer les gentils.
Pour moi, c'est un peu trop enfantin, mais c'est le but recherché, du coup, c'est pas vraiment un reproche qu'on peut faire au film.
C'est enfantin, mais en même temps, il y a un truc cette scène est absolument géniale où tu vois, c'est littéralement les légendes, tu vois, de Noël, tout ça, et tu les vois faire de la monnaie au lavomatique, tu vois, c'est un moment. Parce qu'ils ont oublié de mettre des pièces en prenant les dents, tu vois.
Ça
décrédibilise le machin, tu fais ah ouais, d'accord, mais c'est génial.
Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a 2-3 clins d'œil assez sympas. Puis c'est vrai qu'après de voir des légendes comme ça, des contes, etc., réunis au même endroit, rien que pour ça, franchement, ça se regarde très bien.
Et alors, moi, je suis pas forcément d'accord sur le côté enfantin parce que, bon, déjà, t'es obligé de l'adapter au côté enfantin, du moins que c'est le Père Noël. Je peux faire regarde, le Père Noël, ça existe pas, tiens, du coup, t'es obligé de l'adapter. Oui, et ouais. Justement, je trouve que moi, quand j'étais petit, le lapin de Pâques, je le voyais pas comme ça, ou je voyais pas le Père Noël aussi badass.
Tu le voyais pas néo-zélandais sur son île de Pâques, avec ses tatouages et ses boomerangs.
Voilà. Et non, je trouve que justement, ça arrive là où ça aurait pu tomber dans vraiment le enfantin, ça arrive quand même à donner une dimension assez adulte dans l'écriture de ces personnages. Le scénar est assez enfantin, c'est vraiment limité. Mais par contre, je trouve que la façon de faire les personnages est vraiment bien faite, que ce soit pour les enfants qui croient en tout ça ou les adultes qui réinventent leur légende, quoi.
Oui, le message est très positif aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut toujours croire en ces choses un peu magiques pour éviter de tomber dans la tristesse de la vie d'adulte, tu vois, c'est toujours ça. En plus, c'est les gens-là, c'est le Père Noël, le lapin de Pâques, qui font ça parce qu'ils aiment rendre heureux. C'est beau quand même, ils font pas ça parce que c'est leur boulot ou quoi que ce soit, non, ils vivent du bonheur des enfants, c'est franchement, c'est positif.
Ouais, et puis je trouve le film très riche surtout, je trouve qu'il y a vraiment un univers, plusieurs univers qui sont développés, genre l'île de Pâques.
Ouais, l'île de Pâques c'est vachement beau.
Tous ces trucs là, c'est tout autour des personnages, je trouve qu'il y a vraiment un univers qui est riche, et comme on disait c'est de l'Avengers des légendes, donc, donc ils sont un peu obligés de créer plein de trucs, et ils y arrivent, parce que c'était facile de louper ça. Mais non, tout est bien fait. Et oui, voilà, seule limite, c'est vrai que le scénario est très classique, mais bon, c'est un film d'animation, ouais. C'est quand même souvent le cas. Il suffit de prendre tous les Disney, c'est toujours le même scénar. Donc,
ouais. Oui, après, voilà. Oui, c'est vrai que, oui, là, je te rejoins là-dessus. C'est sûr que quand on a un lapin qui veut se mettre des patates dès qu'il est en brouille, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, moi, c'est vraiment
le,
sur...
le Père Noël russe, fan de tuning avec ses sabres.
Ouais, non, mais voilà.
Et tatoué de partout.
Non, non, oui, mais moi, c'est surtout dans l'aspect scénaristique que vraiment, bon, c'est les gentils qui font rêver les enfants, qui vont, éliminer le méchant qui veut leur faire des cauchemars. Donc moi c'est ça un peu qui me gêne, mais c'est vrai qu'après ça a le mérite d'être original par l'écriture des personnages. Et moi gros big up au lapin de Pâques, hein,
vraiment. Ah ouais, c'est le meilleur
perso.
Clairement, c'est le meilleur perso du film.
Du coup vous le recommandiez, vous
le devriez, ah, ou
oui,
pas?
Oui, 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 oui. Ouais.
Après je trouve un truc aussi, c'est que il y a 5 légendes et je trouve qu'il n'y en a que 3 qui sont travaillées plus que les autres. Genre la fée des dents et ouais, le marchand de sable, ouais, ils sont là pour être là, quoi. Mmh. Je trouve que Lapin Pâques, le Père Noël et du coup Jack Frost sont quand même beaucoup plus travaillés.
Très bonne réplique, le marchand de sable, déjà.
Non, mais ouais, après tu sens qu'il
la
pèse.
Et qu'il est muet.
Il pèse quand même un point important dans l'histoire. C'est. Oui.
Ah bon, oui, c'est un peu le dieu sauveur de dernière minute. Ouais. Hein, c'est Deus Ex Machina. C'est la... Il est mort. Ah, en fait, non, il est pas mort. Et il a des pouvoirs super cheatés. Voilà.
C'est... Ouais, non, mais voilà. Mais oui, après, c'est vrai que bon, la fée des dents.
C'est vrai, ça aura mérité un peu plus d'égalité, quoi.
Ouais.
Ok. Du coup, toi, Lucas, de quoi tu veux nous parler?
Alors, moi, c'est Melvin. Bonjour. Pas Lucas.
Je suis désolé. C'est la fatigue. Melvin.
Moi, j'ai pour changer le film le plus récent. C'est faux, ça ne change pas. Je vais vous parler de Klaus, sorti en 2019 sur Netflix. Et moi, c'est nominé aux Oscars, attention.
Attention, pas du tout pour intégrer Netflix aux Oscars, hein, vraiment pas du tout.
Donc c'est réalisé par Sergio Pablos, c'est un film espagnol qui, pour le coup, n'a rien réalisé d'autre. Il a fait que concevoir des personnages dans Moi, Moche et Méchant, Dingo et Max, Tarzan, Stuart Little 3, enfin vraiment.
Ah oui, d'accord.
Il a vraiment fait créer des personnages de partout, Rio aussi. Mmh. Enfin bref,
c'est son boulot, quoi.
Voilà, et je trouve que ça se ressent d'ailleurs un peu dans Klaus, mais on en parlera après. Et donc c'est son premier film en tant que réalisateur et qu'il a scénarisé aussi. Donc ça raconte l'histoire de Jesper qui est à l'académie de la Poste pour devenir facteur et qui a une grosse flemme de devenir facteur. Donc on l'envoie à Smirnsburg, une espèce de village reculé au fin fond de la planète où il fait froid tout le temps et tout ça. Et son objectif, c'est envoyer 6000 lettres, il me semble. Mm. Et, sauf qu'il se rend compte que la ville est tenue par 2 clans qui se tirent la guerre. Plus personne ne veut de lettres. Il va falloir qu'il trouve une solution jusqu'à ce qu'il rencontre Klaus, qui est un vieux bûcheron reculé dans ce village. Casting, on a quand même un sacré casting. Vu qu'on a, alors le personnage principal en VO c'est Jason Schwartzman et en VF c'est Alex Lutz. Donc Alex Lutz c'est dans OSS 117.2. C'est comment il s'appelle?
Heinrich
voilà. Klaus qui est donc le Père Noël, hein. C'est J.K. Simmons et en VF c'est François Berléand. Aucun rapport entre les deux. Et après on a aussi en français on a Ludivine Sagné qui a déjà fait pas mal de doublages. Et Karine Viard. Donc c'est marrant parce que c'est un film qui est quand même bourré d'acteurs et non pas de doubleurs. Et je trouve que ça se ressent pas tant que ça, donc c'est cool. Et alors bon, moi c'est un film que j'adore, je vais s'en parler avant. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je te laisse commencer.
Ah d'accord, très bien.
C'est ta journée, Lucas.
Je commence tout aujourd'hui.
Ton moment.
Super. Non, en vrai, j'ai pas forcément de points spécifiques à aborder. Moi je suis rentré de suite dans le film. Je sais pas, l'Académie de la Poste et tout ça, ça me parle, je sais pas, franchement...
Il veut être facteur d'une seconde vie, voilà.
Ouais, non, mais, ouais, franchement, ça m'a fait rentrer de suite dans le film, j'ai vu une Académie de la Poste de la taille du Pentagone, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, je sais pas, je suis rentré de suite dedans. Voilà, le personnage principal est vachement... alors au départ, il est pas du tout attachant, mais il le devient petit à petit. Même, je sais pas, l'univers, le village, c'est Smirnsburg, c'est ça?
Ouais.
Même le village, 2 clans qui se mettent sur la gueule et qui pensent qu'à ça de la journée, avec les enfants qui vont pas à l'école exprès pour pouvoir se mettre sur la gueule. Je sais pas, ça me parle et du coup je suis rentré de suite dedans.
C'est son enfance, c'est pour ça.
La culture et la poste, c'est son enfance, ça lui parle, tu vois.
Non mais.
Et la violence.
Non mais je sais pas, ça le mérite d'être original et du coup ça m'a fait rentrer de suite dans le film. Les personnages sont cool. Après, bon, sur les doublages, moi j'y connais pas grand chose en doublage, du coup, J'ai pas grand chose à dire, franchement, j'aime bien le personnage même de Klaus. Il y a pas un personnage que j'aime pas, même qui mérite plus de développement. Je sais pas, peut-être l'institutrice, mais encore, je trouve le personnage assez sympa. Et voilà, l'animation est vachement cool.
Parce qu'en vrai, on l'a pas dit, c'est de la 2D, un mélange de 2D et 3D, principalement 2D. Enfin, c'est de la 2D travaillée en 3D, mais c'est de la 2D visuellement.
Et du coup, voilà, ouais, j'aime bien les personnages, l'animation est sympa. On a eu un beau contraste entre cette animation-là et l'animation des 5 légendes, même l'animation de Tim Burton aussi. Donc ça nous a permis un peu de faire le tour.
C'est trois animations très différentes et qui sont vraiment bien marquées, tu vois.
Et ouais, qui marchent très bien les trois, c'est ça que j'aime bien. Même l'histoire, jusqu'au bout, ça me porte, c'est très sympa à regarder. Voilà, les personnages sont cool, le scénario est sympa aussi, ça change un peu. Et voilà, globalement, moi j'ai passé un bon moment devant Klaus.
Ce film-là, en fait, c'est vraiment ce que tu imagines quand tu fais film de Noël. Vraiment, c'est le classicisme absolu par rapport à ça. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal, parce que...
C'est plus ou moins voulu, je pense.
Ouais, mais parce que même à chaque fois qu'on commençait à se dire « Ah oui, c'est bon, il commence un peu à s'attacher », à chaque fois tu le revoyais recompter ses lettres.
Ouais, ça reste un vieux connard.
Ah, vraiment, merde, arrête de faire ça.
Le mec, il va juste faire des cris sur le tableau, il tente juste de se barrer, quoi.
C'est ça, tu vois, et c'est un peu chiant, en fait. C'est un peu frustrant, je trouve, qu'il se rende compte de son truc, du bonheur qu'il a à faire ça un peu trop tard, en fait. Tu vois, c'est peut-être ce que je reprocherais. Mais à part ça, les personnages... déjà, l'univers de ces deux fractions qui se mettent sur la gueule en permanence parce que c'est la tradition.
Là, depuis les hommes préhistoriques.
Depuis les hommes préhistoriques, c'est chaud. Hein. C'est, attention. Hein, c'est... Et c'est assez marrant. Tous les personnages sont très attachants. L'institutrice qui vit dans son école poissonnerie qui vit dans son école et qui est surprise en train de se brosser les dents par les élèves qui sont là. Enfin, tu sais, en mode, mais qu'est-ce que vous foutez?
Ouais, mais rien que les poissons pendus partout dans les pièces et tout.
Ouais, non, mais par contre, tu sens vraiment l'inspiration d'une ville vraiment dégueulasse. Hein, c'est vraiment. Tout est en bois, c'est pourri de partout, il y a des cadavres.
Il fait froid, il n'y a que de la neige.
Il fait de la neige, c'est terrible.
Avec ce personnage incroyable du celui qui conduit le bateau quand même.
Oui, celui qui n'a
rien à faire. Celui-là est terrible.
À chaque fois, je dis, oh pitié, mais tais-toi.
Il est au bord, là, vraiment, il attend son bateau toute la journée, là, il attend qu'il y ait
quelqu'un
qui passe.
J'aimais bien le perso extrêmement moins que tertiaire de cette espèce de fille que tu vois planter sa carotte absolument partout, comme elle plante un couteau. C'était toujours un peu marrant.
C'est le bonhomme de neige, lui planter le nez, lui mettre comme des couteaux.
Mais en même temps, c'est un très bon film parce que ça apporte vraiment l'espoir, ça montre l'importance de l'éducation, de la gentillesse, de ces factions et même même des adultes qui se réconcilient entre eux.
Ça dépasse le message de Noël, ouais.
C'est ça, à part les plus conservateurs d'entre eux, et du coup, ça montre que être conservateur, c'est de la connerie. et c'est beau, tout ça passe par les enfants aussi, que les enfants qu'on leur apprend la violence mais ils ne sont pas violents de nature, tu vois,
c'est dans l'éducation,
c'est,
quoi.
C'est toute cette histoire là, c'est beau, et tu parlais effectivement de cette fausse 3D, mais il y a aussi ce côté faussement saccadé qu'ils ont donné, comme il y a dans Spider-Man Into the Spider-Verse, où tu aurais pu faire un truc super fluide mais tu choisis intentionnellement de saccader un petit peu l'image. Donc techniquement, c'est vraiment très beau. Je crois que c'est le seul film exclusivité Netflix que j'ai vu, parce que si on parle en série, là, c'est autre chose. Mais comme quoi, il montre que parfois, en mettant le fric là où il faut et en les foutant un petit peu la paix, normalement, ça va, tu t'arrives à faire de bons trucs.
Oui, ça arrive.
Ça arrive.
Mais Netflix est vachement positif, je trouve, là-dessus. Parce qu'ils mettent beaucoup moins le grappin sur les réals et sur les scénaristes que peut avoir l'industrie hollywoodienne.
Ce qui est parfois un problème, mais c'est un autre débat.
Mais on va dire que ça reste quand même beaucoup plus... C'est ça que je trouve quand même intéressant avec Netflix, ça reste quand même un peu plus ouvert, et j'ai l'impression qu'ils mettent de l'argent là où le cinéma en général veut pas pas trop mettre les pieds.
Non, c'est franchement, c'est des faux amis. C'est des faux amis Netflix qui sont là. C'est vraiment la grande entreprise. Oui, tu as la liberté de faire ça. On te laisse tranquille. Mais par contre, si tu peux mettre ça, c'est encore un peu mieux. Hein.
Et puis, ouais, mais bon.
Puis voilà, parce que crois-moi que si ton show est génial, mais que tu réunis pas dans les frais, t'inquiète pas qu'il y aura jamais de saison 2 ou de suite à ton truc. Hein.
Ouais, mais après, ça, c'est dans tous les cas pareil.
C'est un piège. Netflix, c'est un piège, tout simplement.
Ouais, mais le résultat, ça reste le même. Au final, t'as un film un peu original qui sort et t'abordes quand même. Même il y a certains films Netflix qui abordent quand même des thématiques qui donnent la voix, je trouve, à des plus petits réalisateurs ou des plus petits acteurs, et je trouve ça intéressant. Après, c'est sûr que le but ultime, c'est de faire du pognon, hein, comme dans toutes les industries.
Il y a aussi ça qui me chagrine avec tous ces systèmes de plateformes de VOD, c'est que déjà, bon, moi je suis quelqu'un de très attaché au format physique. C'est-à-dire, le jour où, je sais pas, il y a la troisième guerre mondiale, il y a tout ça qui disparaît. Il n'y a pas de copie. Tu vois, il y a pas d'enregistrement. C'est que du numérique. Et le numérique, ça disparaît comme ça.
Hein, le cas pas trop extrême. Le jour où il y a tout qui pète, il n'y a plus rien.
Non, mais il n'y a pas de.
Ouais, je vais survivre grâce à mon lecteur DVD. Ouais.
Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein, parce que moi, je conserve les trucs. Tu vois.
Ah, mais moi aussi. Hein.
Ouais, moi aussi.
Donc, déjà, il y a ça, et surtout le fait que j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à des choses comme ça de qualité. Et or, c'est pas le cas, tu vois, c'est Netflix. Netflix, tu vois, si on m'avait pas filé un compte gratuitement, j'aurais jamais pu voir ça, parce que j'ai pas les moyens et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans Netflix.
Ouais, certes, un film Netflix sort en Blu-ray quand même. Je pense au Mitchell contre les machines.
Oui, mais enfin, c'est rare.
C'est
très rare, comme les séries Amazon Prime, genre The Boys, tu vois. The Boys, il y a de la chance d'avoir une version physique.
Ouais, bah, ça fait un
carton. Sans VF.
Oui, ça fait un carton, donc forcément.
Ouais, mais voilà, tu vois, c'est pas tout qui est comme ça, tu vois. Tu disais que t'aimais bien Mercredi, par exemple. Mercredi, pas sûr, tu vois.
Ça jamais ça sortira.
Jamais ça aurait une version physique, tu vois. Et c'est dommage, parce que même les trucs les plus médiocres qui puissent exister ont leur chance, tu vois, pour qu'au moins on puisse voir ce qu'il faut pas faire, par exemple. Donc voilà,
c'est un autre débat.
On s'est un peu enfoncé dedans, mais en tout cas, Klaus, moi je le recommande vraiment. Si vous avez Netflix, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous prêter Netflix, franchement, très bon film de Noël, vous pouvez foncer, vous pouvez mettre ça devant les enfants, il n'y a pas de souci.
Et oui, parce que le fait que j'adore le film, surtout, c'est ses personnages, et surtout le fait que ça montre comment Noël est né. Enfin, Noël extérieur,
mais je trouve que tous les
détails de Noël, que ça aille de la cheminée au lutin, à tout ce qui existe, c'est fait d'une manière assez réaliste, et ça réinvente Noël, et ça montre comment Noël a pu être créé, et c'est ça que je trouve fou avec ce film, et ça arrive à le faire de manière qu'on n'a jamais vue.
Ça me faisait marrer parce que le Père Noël, le Klaus, du coup, il bosse tout seul. Et puis là, d'un seul coup, il fait venir de la main étrangère qui parle pas la langue. Du coup, t'es là, ah, d'accord.
Et surtout, le film est même émotionnellement, il est beau. Je veux dire, la fin, elle est quand même super belle. C'est assez triste, et tout.
C'est puissant, c'est une belle histoire d'amitié, c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle histoire de légende, comment c'est créé. Et même à la fin, c'est saupoudré de mystère, tu vois, parce que Klaus, à la fin, c'est qu'un homme, donc à un moment, il part pour toujours. Mais tu entends les clochettes, tu dis, ah, il y a encore la légende qui sont là.
Non, ouais, c'est sympa. On sent qu'il y a une forme d'héritage derrière, et ça, c'est vraiment cool. Ouais.
Voilà, ils ont vraiment réfléchi leur truc. Ils ont pas fait une histoire de Noël juste pour faire voilà, légende de Noël, c'est un vieux qui était là-bas et c'est tout, tu vois.
Ouais, voilà, c'est vraiment poussé dans les détails, c'est des petits détails par-ci par-là qui sont vraiment bien pensés, quoi.
Donc voilà, j'espère que on vous a donné envie de voir ces films. Voilà, c'est un sujet très intéressant, évidemment. Le mois de décembre, on allait faire ça, hein, bien sûr.
Et on fera les films de janvier, du coup, le mois prochain.
Bien sûr, les films sur la rentrée scolaire ou sur les partiels, bien sûr. Bon, je propose, en petit aparté, est-ce que vous avez des petites recommandations que vous, outre ces trois films merveilleux? Qu'est-ce que vous avez vu récemment?
Alors moi, j'ai deux recommandations qui allient mes deux passions. Mm-hmm. Un pour Shrek, l'autre pour les nazis. Voilà.
Super.
Ouais. C'est Shrek en nazi.
Excellent.
Shrek.
Non, la première, c'est Overlord,
qui
raconte donc l'histoire d'un parachutiste américain qui se retrouve dans une ville française où il y a des nazis qui mute.
Non.
Et voilà, donc c'est un film d'action, c'est vraiment, voilà. Je m'attendais, j'ai lu le pitch, j'ai fait wow, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé, j'ai fait wow, c'est génial. Donc ça, c'est un film d'action. Après, c'est pas le meilleur film du monde, mais ça se regarde super bien, c'est très fun. Et donc je vais recommander Le Chapeauté 2, sorti au cinéma il y a une semaine, parce que bon, Le Chapeauté 1, c'est un peu de misère par rapport à l'univers Shrek, et même la fin de l'univers Shrek, c'est un peu de misère. Et là, le chapeau des deux arrive et ben, on retrouve tout cet univers de base, le même humour, une histoire qui fonctionne, des personnages qui sont bons et le méchant est dingue. Et non, si vous avez l'occasion de voir le chapeau des deux, allez-y. C'est, si vous aimez Shrek, c'est vraiment, on revient aux bases et okay. Ça fait plaisir.
Ok. Toi ?
Alors moi, j'ai pas vu grand-chose ce mois-ci, excepté les trois films. J'ai fait un petit rattrapage de classiques. Du coup, je me suis maté Le Parrain, que j'avais jamais vu, qui fait partie de ma longue liste de classiques à rattraper. Mmh. Qui est vraiment bon. C'est tout ce qu'on sait. Hein, donc pour ceux qui
le meilleur film de l'histoire du cinéma. Non, je déconne. je déconne.
Non, mais bon, voilà, ça pose des films. Ça pose les bases d'un film de gangster. Donc bon, pour ceux qui hésitaient encore à le regarder, c'est un classique, c'est à voir, c'est très bien. Mais mes deux recommandations du mois, j'ai été un peu déterré ce que j'avais regardé. Dans la première, c'est 8 Mile, donc c'est la biographie du rappeur Eminem, donc pour ceux qui aiment le rap américain, et c'est vraiment intéressant. En vrai, ça montre un peu la pauvreté des quartiers, il me semble que c'est Détroit, oui je crois. Et du coup, ben, pour ceux qui aiment le rap américain, n'hésitez pas, franchement, ça c'est une biographie vraiment intelligente. Et le second, c'est Coach Carter. Coach Carter, c'est un film de sport, donc c'est un film de basket précisément. C'est sur un coach qui s'appelle Ken Carter, donc qui est joué par Samuel Jackson, qui doit coacher l'équipe de basket du lycée de Richmond, je crois, aux États-Unis. Et c'est un beau film qui porte beaucoup de valeurs de solidarité et de respect dans le basket. Ça reste quand même super intéressant. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, c'est des bons films.
Alors moi j'ai pas eu trop le temps de voir d'autres films, mais du coup en nouveauté, moi j'ai enfin commencé Game of Thrones. Bon, j'en suis qu'à la moitié de la saison 1, hein, calmez-vous. Pour l'instant c'est cool, voilà, mais bon, je pense que vous connaissez, c'est plutôt pas mal. Et sinon j'ai revu récemment un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Chat Noir, Chat Blanc de Emir Kusturica. Et c'est un film, on va dire... Vous voyez tous les pays qui faisaient la Yougoslavie avant la mort du dictateur. Ben voilà, c'est dans ces zones-là. Et c'est en gros, c'est quelqu'un qui va devoir éviter un mariage forcé dans un mélange de tout ce qui est magouille, pauvreté, arrangement entre amis et mafia, mafia roumaine. Donc c'est
beau mélange.
C'est un beau mélange, mais c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle, c'est très touchant. Bon, la musique est, c'est une fanfare, c'est des fanfares de rue à chaque fois, mais c'est vraiment, ça pète dans tous les sens, c'est très bien. Je vous le recommande très chaudement. Et voilà, c'est juste un de mes films préférés, donc c'est normal que j'en parle. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait une belle émission.
Ouais.
Voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur l'Instagram du Radio Campus Pau. Et sur notre Instagram Thème Ciné. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire des retours, hein, ça nous aide pour nous améliorer. Quant à nous, on vous dit à la prochaine, pas à la semaine prochaine, ouais. Non, pas du tout, à la prochaine pour un nouveau Thème Ciné. Salut à tous.
Et vous pouvez retrouver aussi sur le site internet maintenant de Radio Campus.
Voilà.
Salut à tous.
Salut.
Vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow.